Get down.
Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop.
Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me.
Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier.
Salut Théo.
La thérapie de ce jour est consacrée au tube du mois et c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous annonce que ce titre et l'album dont il provient font partie de la discographie idéale de nombre de quarantenaires puisqu'il est sorti en 2001 et a accompagné nombre de nos journées et soirées. La pépite du jour a été pondue par un petit groupe dont on n'entend plus parler depuis 5 ans maintenant vu que leur dernier album est sorti en février 2020.
Et qu'il n'était pas ouf.
Et voilà, c'était pas franchement un succès, mais le premier, quel bol d'air. Il s'intitule Easy Seat, la pochette montre une jolie paire de fesses sur laquelle s'est glissé un gant en cuir, et il comporte tube sur tube. Vous l'avez ? C'est bien du premier album des Strokes dont il va être question. Et durant cette émission, nous allons vous narrer l'histoire de ce groupe, du moins celle de ses débuts. Nous allons tenter d'égrener les tubes que contient l'album, et je vous l'ai dit, ils sont nombreux. Et Gauthier, comme à son habitude, nous distillera quelques anecdotes dont il a le secret. Et comme il fallait choisir un tube sur l'album, nous avons choisi celui qui sonnait un peu comme une évidence, c'est Last Night, qu'on s'écoute tout de suite. Voilà qui réveille. Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Dans l'épisode de ce jour, on se penche sur le premier album des Strokes et notamment, donc vous l'avez entendu, sur leur tube Last Night. Gauthier, tu nous présentes un petit peu les loulous.
Ouais, rapidement, en 98, 5 amis new-yorkais se réunissent pour former le groupe dans les Strokes. Donc, Julian Casablanca, Albert Hammond Jr., Fabrizio Moretti, Nick Valenzi et Nicolai Frature.
Et ces 5 petits gars, on va pas se mentir, malgré leur physique un petit peu passe-partout, ils viennent pas de nulle part, Gauthier.
Non, ils avaient pas trop les profils pour être des spécialistes du garage rock, c'est le moins qu'on puisse dire. À titre indicatif, Julian Casablanca était le fils de l'homme d'affaires John Casablanca, fondateur de Elite Model Management, l'une des plus grosses agences de mannequinat au monde, et fils de Janet Christensen, une mannequin, également Miss Denmark 65, pourquoi pas. Le second, Albert Hammond, pour continuer, par exemple, était le fils de l'auteur-compositeur Albert Hammond, une sympathique petite carrière au demeurant, un auteur-compositeur assez prolifique, et de l'Argentine. Claudia Fernandez, également ex-mannequin et ex vainqueur de concours de beauté. Vainqueuse, ça n'existe pas.
On gagnante
dit... Ouais, gagnante.
Lauréate.
Je voulais féminiser le mot vainqueur, mais ça ne marche pas.
Comme on le disait, ils n'ont pas eu l'enfance des libertines sous Diddy Pop, enfin du moins celle qu'on imagine. On peut aisément le supposer, ils ne se sont pas rencontrés en garde à vue, mais plutôt sur les bancs de lycée UP.
Ouais, il y a un peu de France dans tout ça, parce que certains membres du groupe ont des parents avec des origines françaises. Casablanca notamment a rencontré Nicolai Frature, donc le bassiste du groupe, au lycée français de New York. Quand t'es au lycée français de quelque part, généralement t'es économiquement stable, on va dire. Albert Hammond, lui, il l'a rencontré à l'Internat Institute de Le Rosé en Suisse, un petit bahut, un petit bahut en toute simplicité où sont passés les fils de Lon, les fils Lennon, le roi de Belgique, le prince de Monaco, etc., etc.
Ah ouais, d'accord.
Voilà. C'est pas la jeunesse d'Iggy Pop.
Non. c'est le wouz-wouz, quoi, ce lycée. On a du mal à croire qu'en sortant de là, tu puisses boire de la 8-6 et plaquer 3 accords qui déchirent les tympans.
Ils étaient un peu les outsiders, effectivement, du garage.
Ouais, et pourtant, Gauthier. Et ils ont réussi à se faire une petite réputation quand même
à New York,
en tant que gros gratteux, quoi.
Ouais, à New York en plus. Et alors l'anecdote est rencontrée par leur producteur Gordon Raphael, pas un mec qui était très connu à l'époque, qui raconte lui-même qu'il avait un petit studio alors qu'il faisait le tour des concerts new-yorkais un peu en distribuant sa carte en disant salut, j'ai un studio d'enregistrement, si tu veux enregistrer je te recrute. Et un soir, donc, il y a un premier groupe qui monte sur scène, le groupe Common. Gordon Raphael les trouve extraordinaires, il leur donne la carte. Et puis il y a le deuxième groupe qui monte sur scène, les Strokes. Il dit putain, c'est presque encore mieux, il donne aussi sa carte. Finalement les Strokes l'ont rappelé et il le dira lui-même, je n'ai jamais rien entendu parler de Common. Et ben t'es pas le seul, Gordon Raphael, moi non plus.
Et moi non plus, choisis ton passant. Ils ont dû avoir quelques regrets d'ailleurs, les Common. Mais restons sur les Strokes, Gauthier, et du coup ce Gordon Raphael les invite à enregistrer des morceaux. Ils le font, j'imagine ?
Alors ouais, ils enregistrent les trois premières chansons des Strokes. The Modern Age, Last Night, qu'on a entendu tout à l'heure, mais pas dans la même version. Barely Legal, et le tout premier EP du groupe sera The Modern Age.
Modern Age. Et de manière un peu incongrue, Gauthier, ce n'est pas aux États-Unis qu'on va réellement les entendre, mais au Royaume-Uni. Et alors là, je veux bien que tu m'expliques comment ça se fait, en fait.
Oui, l'anecdote, je l'ai découverte aussi en préparant l'émission, c'est le label Road Trade, qui est londonien, donc, qui va le premier mettre la main sur les démos, en trouvant ça plutôt pas mal. Résultat des courses, le premier EP va sortir d'abord au Royaume-Uni, le 29 janvier 2001, puis plus tard aux États-Unis, le 22 mai 2001. Alors, à l'époque, le magazine Rolling Stones, notamment, commence déjà à parler un peu du groupe, ce qui va créer une situation assez inédite. Certains disent que ça n'était pas arrivé depuis les années 60. Je n'ai bien évidemment aucun élément de comparaison pour vous confirmer cette information. Mais apparemment, il y aurait eu une véritable guerre d'enchères entre les maisons de disques pour savoir qui signerait les Strokes. Comprenez qu'il y avait vraiment une attente autour d'eux. Ouais. Je me souviens, moi, parce qu'on était très jeunes, mais je me souviens notamment du magazine Rock'n'Folk, etc., qui parlait de l'album à venir des Strokes. C'était vraiment un truc qui était très attendu, les Strokes.
Et du coup, à l'emballement des maisons de disques, justement, tu viens de le dire, succède celui des médias spécialisés et ils se perdent en superlatif. Peut-être un peu trop, Gauthier.
Oui, peut-être qu'ils s'excitent un peu trop, les bougres. Effectivement, on lira à l'époque dans la presse spécialisée que c'est le plus grand groupe de rock depuis les Rolling Stones, ouais. Uh-huh. Et le deuxième plus grand groupe, sinon, venu depuis les Velvet Underground. Alors, deux paires dont ils auraient pu essayer éventuellement d'embrasser la carrière, mais qui n'ont à peine effleuré, puisque le premier album est exceptionnel, le deuxième est pas mal.
Ouais, il est pas mal.
Et tout le reste est légèrement dispensable. Ouais. Là où, même si les Stones, par exemple, ont fait beaucoup de bouse, ils ont fait quand même au moins 5 très 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 grands albums, et le Velvet Underground, ils n'en ont jamais raté un, donc au moins ça règle le problème.
Et il y a une petite particularité quant aux trois morceaux de The Modern Age, l'EP qui était sorti en janvier.
Alors, on les retrouve, toutes ces chansons, The Modern Age, Last Night et Buried Legal, mm-hmm. sur l'album qui viendra, c'est-à-dire Resdetit, dont tu as parlé dans ton édito, mon cher Théo. Mais ils sont légèrement retravaillés, réenregistrés. Je vous ai mis la version, bien évidemment, de l'album. Et voilà, si pour les gros fans, sachez que l'EP peut avoir un intérêt, puisque vous n'entendrez pas exactement le même enregistrement, et même pas exactement les mêmes paroles, sauf erreur de ma part. Voilà.
Bon à savoir. On se marque une petite pause, Gauthier ?
Avec plaisir. We'll be right back.
To Explain, vous l'aurez compris les amis, toujours issu de l'album Easy Seat. On va maintenant s'intéresser au tube qu'on a choisi pour la thérapie de ce jour, et Gauthier, ce tube c'est Last Night. Il était présent sur l'EP The Modern Age, donc on le disait, on le retrouve bien entendu sur l'album Easy Seat, et il y a quelque chose que tu voulais souligner, c'est le contexte musical de sortie de cet album. On est en 2001, et l'heure est pas vraiment rock vintage.
Oui, je pense que ça a énormément joué pour les Strokes, effectivement. On est dans une période, si tu veux, où la Britpop est passée, Oasis, Blur, font plus des albums absolument délirants, Pulp, The Verve, etc., etc.
On écoute quoi en 2001 ?
On est en plein électro, notamment, hein, c'est le début de la French Touch, notamment un peu. Il y a beaucoup de rap, notre cher Jay-Z domine les charts, Kanye, je crois, on doit y être, où il commence un peu à approcher.
Ouais.
Et puis, les premières places sont trustées par des noms... éminemment célèbre, mon cher Théo, YouTube, Bon Jovi, Britney Spears, Madonna, que des gens qu'on adore, bien évidemment. Et en fait, au fond, les groupes de guitare, c'est-à-dire ce qu'on entend là, des gars qui sont des formations qui sont très orientées autour des grattes, c'est fini à cette époque-là. Et je cite le journaliste Tim Jones du magazine NME qui écrivait que la scène indépendante semblait assez morte. C'était le tournant du militaire. On avait beaucoup de groupes acoustiques type Turin Breaks qui ne sont pas restés dans les annales, Star Sailor qui sont restés dans les annales pour
plus, mais...
Four to the Floor peut-être, mais c'est tout, qui faisaient des disques incroyablement pleurnichards et sans mélodie. Il y a Coldplay aussi qui explose avec le deuxième album à ce moment-là. Voilà. Donc c'est vrai que le contexte va jouer pas mal pour eux, et ils sont l'un des premiers groupes de guitare à réapparaître et à vraiment réimposer un style un peu brut, presque garage.
Et c'est donc dans ce contexte de rock moribond que les Strokes débarquent. La sortie de Easy Cité, c'est un peu comme un électrochoc pour la scène musicale, malgré un son que d'aucuns pourraient qualifier de conventionnel.
C'est un son qui est déjà entendu, en fait on y viendra, mais je pense que c'était en grande partie un mantra de Julian Casablanca. Quand on les compare aux Velvet, aux Stones, il y a un peu de vrai dans le sens où c'est un son qu'on connaît déjà. Alors ça ressemble pas beaucoup aux Stones, peut-être un tout petit peu plus aux Velvet dans la tessiture, on va dire, du son, mais effectivement il n'y a pas grand chose de révolutionnaire. Alors Last Night, n'en parlons même pas, ils sont allés chercher les influences, quoi.
On s'écoute un petit Someday en fond.
Ah, si tu veux, moi.
Allez, avec plaisir. Une sacrée pépite que ce Someday, je vous encourage vivement à l'écouter, tout comme l'album d'ailleurs, dans son intégralité. Au fait, Gauthier, je reviens à Last Night, comment est-ce qu'ils l'ont composé ? Ne me dis pas que c'est un atroce pompage quand même.
Et mon cher Théo, le style était le style des Strokes n'était pas révolutionnaire, et les compos pas trop non plus. Je vais te faire écouter une chanson de Tom Petty and the Heartbreakers. Cette chanson s'appelle American Girl, et tu verras, vous avez entendu Last Night au début de l'émission, il y a une sorte de parenté, dirons-nous. Je passe parce que la chanson est pas ouf, mais vous aurez entendu que le riff de guitare d'ouverture est très 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 proche de celui de Last Night, si ce n'est pas pour dire similaire.
Ouais. Ouais, on l'entend là, un petit peu en fond, et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu American Girl, mais sous stéroïdes quand même. Au niveau du clip, Gauthier, ils se sont pas trop foulés non plus, non?
Non, on se filme en live et puis basta.
Ouais. Et si le producteur Gordon Raphael était aux manettes, c'est bien Julian Casablancas qui a bel et bien imprimé sa patte sur cet album.
Oui, parce que incontestablement, et alors particulièrement dans le contexte de l'époque, le son arrive et il est très brut, très particulier et assez réussi. On sait Julian Casablancas chanter dans les vieux micros, là, tu sais, de radio des années 30, même peut-être, ou même, j'ai pas exactement la date, mais c'est micro assez iconique. Et Julian Casablanca donc arrivera en studio en disant qu'il voulait que sa voix sonne, je cite, comme une paire de jeans bleus. Bon,
de blue jeans.
Mais je vois pas comment une voix sonne comme des jeans, mais imaginons. Et il voulait, alors là c'est encore plus métaphorique, que les tambours, que les batteries, on se les prenne comme sur un cul sale qui a été nettoyé et rasé.
Il y a un rapport avec la pochette peut-être.
Peut-être, en tout cas, il avait, on va dire, une vision de son son. Voilà, écoute, on va dire que c'est la vision de l'artiste.
artiste.
Voilà, et ça fait un grain très particulier, très ouais. années 70, notamment.
Du lofi, quoi.
Un peu.
Un peu. Et si Casablanca voulait ce son, c'est pas seulement parce qu'il aimait le côté un peu cradingue, c'est aussi parce que d'autres groupes s'y étaient essayés auparavant et que ça marchait.
Oui, c'était le retour au vintage, entre guillemets, était tendance. Il y en avait notamment deux qu'on peut citer qui sont restés dans les annales. C'est les Hives, notamment, et les White Straps, qui commençaient au tournant des années 90-2000 à devenir célèbres. Ouais. Elephant n'était pas sorti avec le Seven Nation Army mythique, mais je crois que ça se fait dans l'année suivante.
Oui, exactement. Ouais.
Voilà. Mais donc, c'était un peu à la mode, justement, du retour de ces groupes à guitare avec des sons un peu crado pour concurrencer Bon Jovi et U2.
Et avant de clôturer, eux ont des sons bien trop propres. Avant de clôturer cette émission, Gauthier, tu as deux anecdotes sympathiques à nous livrer, à commencer par une petite boulette compte tenu du contexte historique.
Oui, parce que c'est pas tout, mon bon Théo, d'avoir des bonnes chansons et d'être dans la vibe, on va dire, de la tendance actuelle. C'est pas plus mal de sortir son album avec deux petits scandales. Alors, le premier, l'album est sorti le 25 septembre 2001. Si vous vous dites, ah, c'est marrant, il y avait un truc qui s'est passé peu de temps avant, c'est bien évidemment les attentats du World Trade Center. Le problème, c'est que sur l'album, il y a une chanson qui s'appelle New York City Cops, où le chanteur scande notamment un sympathique New York City Cops that ain't too smart. On comprend, les flics de New York ne sont pas très malins. C'était pas trop le contexte à l'époque de chanter ça juste après les attentats du World Trade Center.
Et puis il y a également cette pochette aussi élégante que mythique dont je vous ai parlé dans l'édito.
Oui, et si vous recherchez l'album sur YouTube, iTunes, etc., vous verrez d'ailleurs pas forcément ce magnifique cul et cette main gantée.
Sur iTunes, ça y est pas.
Voilà, dans les États-Unis, toujours un peu puritain, un peu étrange, ces gens que sont les Américains, ça ne plaira pas trop et ça sera remplacé par une pochette assez moche d'ailleurs au demeurant. Une sorte de. Je me pose ce que c'est en fait. C'est
pas un kaléidoscope, tu sais, mais c'est un fractal. Voilà, un fractal, ça ressemble à
un
fractal.
Un truc vraiment très très laid. Voilà, donc il y a l'édition internationale, on va dire, et l'édition américaine. Foncez sur l'édition internationale, la pochette est mythique pour la
Ouais, rien que pour ça, ça vaut le coup. Et pour conclure, t'as une petite citation de ton média favori, à savoir le site Pitchfork.
C'est pas ma faute, ils sont toujours dans le juste.
Et donc, qui est plus nuancé que moi quant à la qualité de cet album?
Bien sûr, je les cite. Bien sûr, rien de tout cela ne change le fait que Is It It manque de créativité et de non-conventionnalité inhérente à l'un des grands groupes de rock auxquels ils sont si impulsivement comparés. Comprendre que dès la sortie de cet album, Pitchfork disait, vous les comparez aux Stones, vous les comparez aux Velvet, arrêtez de déconner, ça n'est absolument pas de la même facture. Et force est de constater qu'une fois de plus, l'histoire leur a donné raison. La bulle Strokes, c'est assez rapidement
éclaté.
Puisque une fois qu'ils ont plus joué sur leur son si particulier, dès le deuxième album qui était plus doux, on va dans la qualité,
plus propre,
le troisième était beaucoup plus violent en revanche, mais voilà, ils avaient perdu très rapidement en fait le sel qui faisait leur particularité, à savoir ce son qui sort comme une qui sonne comme une paire de blue jeans et comme un cul sale qu'on a nettoyé et rasé.
Et donc ça, c'est vraiment une critique de 2001 quand c'est sorti.
Ouais.
C'est fort, hein.
Mais exactement comme quand ils avaient chroniqué le premier album de Coldplay en disant qu'il y avait la voix de Chris Martin, mais que c'était une esbroufe et un hold-up total, ils ont raison.
Ouais.
C'est de la merde.
Ils sont doués.
Ouais, oui.
Chers amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter en écoutant, à mon sens, et je crois au tien, Gauthier également, le plus chouette morceau de cet album. Je te remercie de l'avoir choisi. C'est Trying Your Luck. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Ce sera le 6e épisode de notre saga Bowie. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier.
Salut Théo.
Salut.